Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et notre invité ce soir sur RMC, Samir Nasri. Alors Samir, après Marseille, après tes débuts à l'OM, tiens, la Première Ligue, t'as fait 9 saisons en Angleterre. D'abord Arsenal, bien sûr. Pourtant, toi, l'appel, étudier un documentaire sur Canal, ça ne te faisait pas rêver forcément.
Pourquoi? Non, à la base, parce que je pense, à la base, le football anglais n'est pas adapté à mes qualités. Je parle dans les années 90, c'était beaucoup de kick and rush, c'était du jeu direct. Et moi, mes qualités, c'est plus le jeu au sol et technique. Donc, j'ai toujours été attiré par le championnat espagnol. Et fin des années 90, la première ligue de l'époque, c'est le championnat italien. Les grands joueurs, ils jouent tous dans le championnat italien. Et après, avec l'arrivée d'Arsène Wenger et les Frenchies, que ce soit au départ le doublé avec Nicolas Anelka et compagnie, et après l'arrivée de Henri, Pires et Evira Arsenal, m'a fait changer un petit peu d'opinion sur le football anglais.
Et là, tu fais une rencontre, j'ai envie de dire, ta rencontre footballistique à Arsenal. Il est espagnol, il a 22 ans, il est capitaine de l'équipe, il s'appelle Cesc Fabregas. Kevin Ismar, déjà, parce qu'il kiffe évidemment le joueur. On a le sentiment là que c'est presque le coup de foudre technique, quoi.
En fait, on se connaissait parce que on gagne le championnat d'Europe des 17 ans contre l'Espagne. Et il y avait Cesc qui était là. Et en fait, on était tous dans le même hôtel. Et tous les jours, on jouait à la PlayStation ensemble. Parce qu'on avait un joueur de notre équipe, en équipe de France, qui était le fils de Jacques Songo, Franck Songo, qui était au Barça. Et donc, il allait tous les jours dans leur chambre et j'allais avec lui et on jouait à la PlayStation. Donc, on se connaissait un petit peu. Et quand je signe à Arsenal, de suite, les premiers entraînements, le mec, il est techniquement, il est au-dessus, c'est un passeur... Honnêtement, j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs dans ma carrière. Pour moi, c'est le meilleur passeur avec qui j'ai joué, et de loin. Et donc, on avait une certaine attente parce que Arsène Wenger, il aimait bien avoir deux meneurs de jeu dans son équipe. Un plus bas, c'était Cesc, et moi, un peu plus haut. Et donc, il y a eu ces petites connivences au niveau footballistique. Et moi, je me suis vraiment épanoui avec lui.
Et avec Arsène Wenger aussi, qui parle très bien de toi dans le documentaire.
Non, mais lui, voilà, lui, c'est la grande classe. Lui, il a joué le rôle de père. C'était important pour moi de ma première expérience à l'étranger dans un club, un top club, qui joue la Ligue des Champions chaque saison, qui se qualifie toujours après les poules. Mais d'avoir un entraîneur français qui puisse me comprendre. Et lui, il a tenu toutes les promesses qu'il m'avait faites lorsque j'étais à Marseille. Il m'a aidé dans ma vie personnelle. Il m'a aidé à m'installer. Tous les jours, il me demandait de mes nouvelles. Il y a eu ce lien. Moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif. Et mes meilleures saisons, je les ai toujours fait avec un entraîneur avec qui je n'étais pas en conflit ou qui aimait le conflit. J'aimais bien avoir un entraîneur. Je suis bon, il me le dit. Mais si je ne suis pas bon, il me le dit, qui est juste. Et j'ai adoré bosser avec Arsène Wenger.
Vous ne gagnez pas pendant 3 ans à Arsenal. Et là, tu pars à City. Et ton titre, tu vas le chercher en 2012 lors d'une dernière journée historique. C'est soit vous, soit United qui bat Sunderland 1-0. Vous êtes mené 2-1 par QPR, Queen's Park Rangers, avec un but de ton pote Djibril Cissé en plus. Et en 2 minutes, dans le temps additionnel, vous renversez tout. Dzeko égalise. Et évidemment, la suite, on la coupe.
Balotelli, Aguero.
T'as des frissons ou pas? T'as des frissons, tu regardes ton bras, Samir. C'est quand même l'un des commentaires les plus connus de l'histoire du foot.
Ouais.
C'est Aguero!
Non, mais même ce qu'il dit après. Il dit, je jure que vous ne verrez plus jamais ça de votre vie.
Et on l'a pas revu.
Non, mais c'est complètement dingue.
On l'a pas revu.
Avec le téléphone Manchester United de l'autre côté contre Sunderland, c'est ça?
Ils sont déjà en train de fêter quasiment le titre.
Ils étaient
en train de fêter. C'est fou.
Là, t'as 24 ans, t'es champion d'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce moment-là, parce que toi, tu n'y crois pas quand t'es mené 2-1.
Non, j'y crois plus du tout, parce que on avait, si on se souvient un petit peu de la chronologie de ce championnat, il y a à cette journée de la fin, on a 8 points de Manchester United. Par un concours de circonstances, on arrive à revenir à 3.2. 3 matchs avant ça, on les joue à domicile, on gagne 1-0 sur un but de compagnie sur une tête. Donc on est ex aequo, on a 2 matchs. Il nous reste 2 matchs, il nous reste Newcastle à l'extérieur. On se dit, c'est le match traquenard, si on le gagne, on est champion. On gagne 2-0, il y a Touré mais un doublé. Et on reçoit QPR qui a 70% de chances de descendre. Donc on se dit c'est tranquille, c'est la fête. Mais sauf que on a beaucoup de très très bons joueurs dans l'équipe. mais pas des joueurs habitués à gagner. Et donc le dernier tir pour transformer l'essai, c'est compliqué quand il y a cette pression-là, il y a un engouement. Le Manchester City n'avait pas gagné de titre pendant 44 ans, donc c'est aussi c'est lourd, c'est difficile. Et on commence bien le match, on mène 1-0, Yaya se blesse, et la mécanique est un petit peu enrayée, et là on prend deux buts coup sur coup. Dans ma tête, j'étais en train de me dire « Non, mais c'est pas possible, je suis maudit, je vais jamais rien gagner, c'est pas possible. » Et là, Dzeko marque le 2-2, et je te jure, il marque le 2-2, et je me dis « Comme par hasard, on marque maintenant, et je vais avoir, on a perdu quand même. » Et là, il y a Agüero qui fait son truc, et quand il y a, même au moment de l'action, quand il le tacle, dans ma tête, je suis en train de me dire « Mais il tombe !» Parce que c'est Taïwo, en plus, qui fait faute sur lui. Et là, il marque
Taïwo, en plus, j'aime bien.
Mais ouais, non, parce que j'ai joué avec lui.
Tu connais, ouais.
Et pourquoi il tombe pas?
Parce qu'il sait que s'il tombe, c'est Balotelli qui va tirer le pénalty.
C'est vrai?
Ah oui!
C'est bon, ça.
Attends, le héros, hein, ouais. Jamais, c'est Balotelli, c'est plus Agüero. Et là, il a changé l'histoire, il est resté debout, il a mis au fond.
Ah, c'est pour ça qu'il a.
Je te le garantis.
T'as préféré le quotidien avec Balotelli ou avec Agüero à City?
Ah, c'est différent, tu t'amuses plus avec Mario. Tu t'amuses plus avec Mario.
Peut-être que tu gagnes plus avec Agüero, par
ça, c'est sûr.
Raconte-nous Agüero, c'était comment de jouer avec lui, parce que bon, là aussi, on est sur une légende.
Agüero, c'est une légende, mais je trouve que c'est une légende en Angleterre et compagnie, mais je pense que pour moi, il est même un petit peu sous-coté par rapport aux joueurs que c'était. Franchement, il était explosif. Et sur le petit périmètre, il est capable d'éliminer dans une cabine téléphonique. Et c'était clinique devant le but. Vraiment. C'était bon, très bon joueur. Et très bon mec, en plus. En plus de ça, très bon mec. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer mon idole. Il m'a ramené Maradona. Donc, franchement, Sergio Agüero, c'est 20 sur 20.
Il lui a manqué 2-3 images avec l'Argentine et en Ligue des Champions,
ouais,
peut-être.
Ouais, un petit peu.
Mais ce qui est fou, c'est que c'était exceptionnel.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu fais un choix qui est quand même très contesté. Parce qu'à l'époque, Manchester City, c'est un peu comme le PSG quand le Qatar arrive, ou même là, quand les Saoudiens arrivent à Newcastle. En plus, t'as Manchester United. C'est marrant parce qu'en fait, t'as un peu la même phrase que quand Van Persie quitte Arsenal. Oui. Il dit je pars parce que je veux gagner. Oui. Et toi, tu le dis aussi, tu pars parce que tu veux gagner. Et ça se joue à pas grand chose, mais tu gagnes. Mm. Et derrière, je pense que ils te demandent alors tous ceux qui t'ont critiqué.
Ouais.
Et
t'as non, été parce traité que de mercenaire.
Ouais, j'ai été traité de mercenaire par des consultants et surtout certains avec qui j'ai joué que j'avais appelé justement. Pourquoi tu dis ça? Attends. J'arrive pas à le comprendre. Et ça m'avait fait j'avais un petit peu vacillé au départ. Mon choix se portait sur Manchester United quand les deux clubs sont venus. J'avais rencontré Alex Ferguson à Paris. On s'était vu, on avait discuté. Son projet de jeu, ça m'intéressait énormément. Et après, Jean-Pierre Bernès et Alain Migliaccio, on devait prendre notre décision et on a discuté. Ils m'ont dit, bon, écoute, United, l'année passée, ils font finale de Ligue des Champions et ils sont champions d'Angleterre. C'est un club mythique. Tu peux aller là-bas et tu seras passé à Manchester United. Un parmi tant d'autres. Par contre, de l'autre côté, l'équipe, elle vient de gagner la FA Cup l'année d'avant. C'est une équipe qui sont en train de construire. C'est un projet solide. Les mecs qui sont derrière, ils veulent vraiment faire quelque chose de sérieux. L'année d'avant que je signe, ils font venir dans le même mercato Jérôme Boateng, David Silva, Yaya Touré et Kolarov. Il y avait déjà Tevez, il y avait déjà Compagnie. Et là, sur le début de saison, ils prennent Agüero, Clichy, et ils essayent de me faire un petit. Franchement, je pense que c'est l'équipe de demain. Tu devrais prendre en considération. Et après réflexion, je me suis dit, ils ont raison. Mais on va là-bas et on va essayer de gagner. Et bon, après, j'ai de la chance, on gagne la première année.
Et financièrement, il y avait un vrai gap entre les deux?
Pas énormément.
Il y avait le salary cap, non, à Manchester United à l'époque?
Non, mais il y avait un salary cap à Manchester United où c'était Alex Ferguson numéro 1 après le reste des joueurs. Et en fonction des années passées au club et des preuves que tu as fait, il y avait ce truc-là. Mais même Arsenal me donnait un très, très, très gros contrat à l'époque. Et ouais, c'était une différence de, je crois, peut-être 500 000 à l'année. Mais sur les sommes qu'on parle, ça, c'était rien du tout, quoi.
Et alors, Leonardo t'a appelé aussi?
Oui.
À ce moment-là? Pour te demander si tu voulais venir jouer au PSG.
Non, d'abord, il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan.
Ah!
Il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan, donc on discute sur l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui, deux ans auparavant, fait le triplé avec Eto'o, Schneider et compagnie. Et il m'appelle pour l'Inter, et le courant passe super bien, on discute. Et d'un coup, il me rappelle une autre fois pour me dire « Arrête de discuter avec l'Inter, fini ». Je commence à, il me dit « T'inquiète pas, il y a quelque chose qui se prépare ». Je vais t'appeler pour ça.
Ah, il est bon, Leonardo. Hein.
Et après, il m'appelle pour me dire qu'il est qu'il devient directeur du foot au PSG. Et il me parle de Paris. Et je lui dis non, là, c'est Léo, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et Arsène qui me dit de son côté, mais va au PSG. Il veut pas que je parte en Angleterre. Il veut pas au PSG. Tu dis, mais c'est pas possible, coach. Non, je peux pas faire ça.
T'aurais pu être le Pastore, en fait.
Ouais.
Quand Pastore arrive, il.
Ah, c'est ça. Ouais.
Ouais.
Ouais. Bon, ça. Non mais là c'était pas possible.
Non, ben, non
c'est pas possible. Possible. Beaucoup l'ont fait.
Ouais,
Kevin.
Mais là,
il a fait là, c'est la vidéo.
C'est pas.
Et là il se tue.
Ouais. Non.
T'aurais mal vécu que Zizou prenne le PSG il y a 3 ans là.
Non.
On en parlait. Tu l'aurais compris.
Ouais. C'est pas pareil.
Entraîneur, c'est pas pareil.
Il est Marseille, y a pas de problème. Et mais il a pas joué à l'OM. C'est entraîneur. Donc quoi, on va en vouloir aussi à Laurent Blanc parce qu'il a entraîné le PSG alors qu'il a joué à Marseille. Non, sur ça, non. Par exemple, Peter Luxin, quand il fait le chemin Marseille-Paris, je lui en veux. Il est de Marseille, il a joué à l'OM et est parti. Mais Zidane, non. De toute façon, Zidane, il est intouchable pour faire ce qu'il veut. Tout le monde va lui pardonner au final. Hein.
Samir Nesri, t'es avec vous. Tu restes encore quelques minutes avec nous, avec Kevin et avec Will. J'espère que tu passes un bon moment. C'est Génération After, c'est RMC. Ton documentaire sort dimanche soir à 21h, réalisé par Marc Sauvourel. Reste avec nous, la suite, on va parler des Bleus un petit peu, puis ton rôle de consultant aussi, et tiens, la liste de Deschamps, ce que tu penses des choix du sélectionneur. Reste avec nous, Génération After RMC, à tout de suite.